Vous écoutez France Culture. Le journal est présenté par Margot Steve.
Bonjour. Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante, Simone Veil vient d'entrer officiellement au Panthéon. On sera en direct de la cérémonie. Il faudra désormais rouler à 80 km/h sur les routes secondaires. La loi sur l'abaissement de la vitesse est entrée en vigueur cette nuit. En Allemagne, Angela Merkel espère sauver sa coalition. Son principal allié, le CSU, doit dire cet après-midi s'il reste ou s'il claque la porte du gouvernement en cause les questions migratoires. Le Mexique choisit un nouveau président aujourd'hui avec un espoir, mettre fin aux violences du narcotrafic qui déchire le pays depuis des mois. Et puis à la fin de ce journal, on retrouvera Nabila Hamel pour la dernière face cachée du club de la saison. Il faut que tous ces combats restent des boussoles, l'hommage d'Emmanuel Macron à Simone Veil ce midi, celle qui incarne presque à elle seule l'histoire du XXe siècle, déportée à Auschwitz, présidente du Parlement européen, celle aussi qui avait porté la loi pour la légalisation de l'avortement. Simone Veil entre au Panthéon aujourd'hui, aux côtés de son mari Antoine. La cérémonie a commencé à 10h30 ce matin, les cercueils sont partis du mémorial de la Shoah pour rejoindre le Panthéon, où vous trouvez, Tiphaine Honoré, bonjour.
Bonjour.
La cérémonie vient donc juste de se terminer.
Oui Margot, les portes du Panthéon viennent à peine de se refermer derrière Simone et Antoine Veil. Les deux cercueils sont entrés dans la nef peu après midi. On a pu voir ses fils et ses petits-enfants accompagnés d'Emmanuel Macron franchir l'entrée du monument après un grand silence. Un silence très particulier, celui du camp d'Auschwitz-Birkenau que l'artiste David Teboul a capté pour rappeler les longs mois que Simone Veil y a passé entre 1944 et 1945. La déportation, une souffrance profonde qui a marqué le parcours de l'ancienne ministre. Emmanuel Macron l'a rappelé dans son discours. Il a aussi insisté sur la grandeur des combats de Simone Veil, les conditions de détention dans les prisons françaises, la légalisation de l'avortement et bien sûr la réconciliation de l'Europe.
Elle a bravé l'hostilité, agit en précurseur, embrasser des causes qu'on croyait perdues pour rester fidèle à l'idée qu'elle se faisait de la République et à l'espoir qu'elle plaçait en elle. Il est beau, aujourd'hui, que cette femme rejoigne en ce lieu la confrérie d'honneur à laquelle, par l'esprit, par les valeurs, elle appartient de plein droit et dont elle eut toute sa vie les combats en partage.
On vient donc d'entendre le président Emmanuel Macron au cours d'une cérémonie, Tiphaine, jalonnée des symboles des combats de Simone Veil.
Oui, d'abord celui de la reconstruction après le drame du génocide. Le cortège, vous l'avez dit, est parti ce matin du mémorial de la Shoah, un lieu où Simone Veil s'était beaucoup investie. Il a ensuite rejoint la rue Soufflot pour remonter jusqu'au Panthéon sur un long tapis bleu aux couleurs de l'Europe. Des milliers de personnes étaient rassemblées tout au long du parcours jusqu'à l'immense portrait de Simone Veil et de son mari accroché au monument. 1000 invités ont aussi assisté à cette cérémonie, famille, proches, mais également anciens chefs d'État. Un parterre à la mesure de cette femme, déterminée, visionnaire et juste selon les mots du président de la République. Elle sera accueillie en égale dans cette famille qu'on appelle les héros français, a rappelé Emmanuel Macron. Le public devra maintenant attendre 16 heures pour se recueillir une dernière fois auprès de son cercueil.
Merci Tiphaine Honoré, vous étiez en direct du Panthéon avec Fabien Gosset pour France Culture. Le braqueur récidiviste Redouane Faïd s'est échappé de sa prison de Réau en Seine-et-Marne ce matin. Celui que l'on surnomme le roi de l'évasion pour s'être déjà enfui en 2013 de la prison de Séquédin dans le Nord s'est cette fois évadé par hélicoptère. Redouane Faïd a été condamné à 25 ans de prison en avril dernier pour le meurtre de la policière Aurélie Fouquet. C'était en 2010. Elle fait débat depuis des mois, la loi sur l'abaissement de la vitesse maximale à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes secondaires entre en vigueur aujourd'hui. 400 000 km de routes sont donc concernés depuis ce matin, mais on peut encore trouver des panneaux 90 au bord des routes, tous n'ont pas encore pu être changés. Cédric Langrotte a suivi cette semaine le travail des services départementaux sur les routes de Lorraine.
Plus précisément, à la fin de l'un de ces fameux créneaux de dépassement sécurisé, vous savez quand la route possède trois voies de circulation, deux dans un sens et une dans l'autre. Ici, il faut mettre deux panneaux qui n'existaient pas jusqu'alors, des panneaux 80. Deux agents du département, gilet orange sur les épaules, hissent l'objet dans son socle déjà posé au préalable.
En début de semaine, on a eu deux agents avec la mini-pelle, donc a fait le tour sur l'ensemble du secteur de Metz pour faire les trous.
Laurent Schmitt est l'assistant du responsable de l'exploitation routière dans le secteur de Metz.
Donc on faisait le trou, on met les co-ancrages, on remet la terre par-dessus et c'est les équipes après derrière des centres respectifs qui viennent mettre après en place la signalisation.
L'opération est très rapide, 5 minutes tout au plus par panneau, le temps de mettre un coup d'écrou et de masquer avec du scotch blanc la mention 80 à l'heure. Sur le secteur de Metz, il y a un peu plus de 20 panneaux à installer. C'est peu, comme le précise Pierre Jagère, le responsable de l'unité technique Metz-Orne.
On ne met pas de panneaux quand on applique la règle générale. Donc là, ce sont des endroits spécifiques, les montées, les fins de section à deux fois deux voies, où on rappelle l'automobiliste pour éviter qu'il soit piégé. La nouvelle limitation.
Et la nuit passée, plusieurs agents ont arpenté les routes pour enlever les caches, en espérant qu'il n'y ait pas de dégradation. Au moment de quitter le lieu du reportage, un automobiliste s'est arrêté près du tout nouveau panneau en criant « On va l'enlever, celui-là, et tous les autres aussi ».
Un reportage France Bleu Lorraine de Cédric Langrotte pour France Culture. En Allemagne, Angela Merkel va-t-elle réussir à sauver sa coalition de gouvernement ? Son allié, le CSU, lui a lancé un ultimatum sur la question de l'accueil des migrants. La chancelière allemande a donc fait des compromis en annonçant des accords bilatéraux avec 14 pays d'Europe pour durcir sa politique migratoire. Mais la menace d'une scission est sérieuse à Berlin, David Philippot.
Plus que les résultats du sommet de Bruxelles, ce sont peut-être les sondages d'opinion qui vont ramener les Bavarois de la CSU vers la raison. Des sondages parus ce matin qui sanctionnent leur dérive vers les positions de l'extrême droite, alors qu'Angela Merkel reste la deuxième personnalité préférée des Allemands avec 47% de bonnes opinions. Pour tenter de trouver une issue, les réunions de crise vont s'enchaîner cet après-midi à Berlin comme à Munich, car ce qui est en jeu, c'est tout simplement la survie du gouvernement d'Angela Merkel à peine 100 jours après sa naissance au forceps. Car l'accord négocié par la chancelière n'a pas apporté de clarification dans le bras de fer qui l'oppose à son ministre de l'Intérieur. Difficile de dire s'il contient de quoi amadouer le bouillonnant Horst Seehofer ou au contraire s'il lui donne le feu vert pour tout mettre en œuvre afin de contrer les arrivées de migrants enregistrées dans d'autres pays aux frontières de l'Allemagne. Hier soir, l'incertitude était telle qu'un tête-à-tête a été improvisé à la chancellerie. Angela Merkel et avec elle toute l'Allemagne se demandent si Horst Seehofer bluffe ou s'il est prêt, comme il l'annonce, à fermer unilatéralement les frontières dès ce soir. Ce serait un casus belli pour la chancelière Merkel, qui se verrait obligée de le limoger, mais qui perdrait du coup sa majorité parlementaire, avec des conséquences pour tout le pays et sans doute pour l'Europe.
À Berlin, David Philippot pour France Culture. Les Mexicains élisent leur nouveau président aujourd'hui. Un président dont la première mission sera de mettre fin à la vague de violence qui déchire le pays. Les derniers mois ont été les plus sanglants de l'histoire récente du Mexique. Une violence liée au narcotrafic et à laquelle le candidat de gauche, donné grand favori du scrutin, propose une solution pour le moins polémique. Andrés Manuel López Obrador propose d'amnistier certaines personnes liées au narcotrafic, Emmanuel Stills.
Pardonner aux criminels, ignorer les victimes, accroître la violence et l'impunité, c'est en ces termes que le projet d'amnistie du favori à la présidentielle a été attaqué par ses adversaires, Ricardo Anaya et José Antonio Meade. Sur ce thème, un grand nombre de Mexicains qui vont voter ce dimanche se sont montrés pleinement d'accord avec les deux candidats de droite. La proposition d'amnistie d'Andrés Manuel López Obrador a d'ailleurs été l'un des thèmes les plus controversés de la campagne. Et pourtant, les grands criminels et chefs de cartel ne pourraient pas bénéficier de cette mesure qui s'inscrit dans une idée de justice transitionnelle. Le projet serait destiné aux jeunes et aux personnes les plus pauvres, impliquées par la force ou par nécessité dans le narcotrafic. En priorité, ceux qui vivent des cultures illégales, le pavot à opium et le cannabis, ou du trafic à petite échelle. Le candidat de gauche affirme qu'on ne peut plus combattre la violence par la violence et que les gouvernements passés ont lamentablement échoué à pacifier le pays. La seule solution appliquée étant la militarisation du Mexique. López Obrador propose de créer des commissions de vérité chargées de faire toute la lumière sur les barbaries commises, notamment la disparition de 43 étudiants en 2014 sous la présidence actuelle d'Enrique Peña Nieto.
Emmanuel Stills pour France Culture. Deux personnes ont été tuées, 11 blessées au Nicaragua lors de manifestations pour la démission du président Ortega hier. Des milliers de personnes ont défilé dans tout le pays et deux manifestants ont perdu la vie donc dans la capitale. La répression des opposants a déjà fait au moins 200 victimes dans le pays. Il est midi 39 sur France Culture, l'heure de retrouver la face cachée du globe. Avec vous, Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour Margot. 400 réfugiés syriens de la ville d'Arsal à la frontière libanaise sont retournés jeudi dans leur pays, en passant par la région montagneuse de Kalamoun. Ce groupe de plusieurs centaines de personnes ne représente qu'une infime partie du million de réfugiés recensés au Liban. Le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental termine aujourd'hui sa deuxième tournée dans la région dans l'espoir de relancer des négociations de paix au point mort depuis 10 ans. Les indépendantistes du Front Polisario réclament un référendum d'autodétermination. Le Maroc rejette, lui, toute solution autre que son plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Pedro Sanchez doit rencontrer le président de la Généralité de Catalogne le 9 juillet prochain et Mathieu de Taillac dans ce qui est déjà vu comme un geste d'apaisement. Le nouveau gouvernement socialiste espagnol s'est engagé à déplacer prochainement les détenus indépendantistes catalans de Madrid vers la Catalogne.
4 prisons sont prêtes en Catalogne, 3 à Barcelone et dans ses environs et une 4e dans la province de Gérone, près de la frontière française. C'est là que les 9 indépendantistes catalans actuellement en détention provisoire dans la région de Madrid ont demandé à être transférés. Ils devraient obtenir gain de cause. Le gouvernement espagnol facilitera le rapprochement des indépendantistes de leur famille en Catalogne dès que le juge d'instruction n'aura plus besoin de les convoquer. C'est donc une question de jours. Le geste de détente entre Madrid et Barcelone est pris par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Or, ce dernier est arrivé au pouvoir par une motion de censure votée il y a à peine un mois, notamment grâce aux voix des indépendantistes catalans. C'est ce que ne manque pas de souligner la droite. Pedro Sanchez est obligé de payer le prix de ses soutiens parlementaires, croit savoir le porte-parole à la Chambre du Parti Populaire, la formation de Mariano Rajoy. Mais le rapprochement le plus délicat est celui des prisonniers de l'organisation terroriste basque ETA de leur région d'origine. Le gouvernement socialiste rappelle qu'il se propose d'appliquer des mesures étudiées par le cabinet de Rajoy et que par le passé, une politique semblable a été menée par le gouvernement Aznar de droite, mais le sujet reste extrêmement sensible, notamment pour les victimes du terrorisme. En jouant la carte de l'apaisement sur les fronts basques et catalans, le gouvernement Sanchez s'expose à la polémique politique à Madrid.
En Inde, des rumeurs diffusées par les réseaux sociaux et surtout via la messagerie WhatsApp ont entraîné le lynchage d'au moins une 20aine de personnes innocentes ces dernières semaines. Du nord au sud du pays, ces fausses informations alertent les habitants sur de supposées hordes de voleurs d'enfants qui opèrent dans leur région. Le climat de suspicion est tel que même un officier chargé de contrer ces fausses informations a été attaqué jeudi. C'est une correspondance de Sébastien Farsi.
Jeudi dernier, dans l'état de Tripura, situé dans les confins de l'est de l'Inde, un chasseur de rumeurs est envoyé par les autorités. Muni d'un mégaphone, il incite les habitants à ne pas croire aux fausses informations diffusées par WhatsApp sur l'arrivée d'enleveurs d'enfants. Mais au lieu de l'écouter, les villageois l'attaquent violemment à coups de bâtons et de briques. L'officier est tué sur le coup. Ces rumeurs ont déjà fait 3 morts dans différentes parties de cet état et poussé vendredi les autorités régionales à couper le réseau internet mobile pendant 2 jours. C'est le dernier exemple d'une folie meurtrière incontrôlable qui se répand comme une traînée de poudre en Inde en exploitant la peur des habitants concernant les enlèvements d'enfants très courantes dans les régions pauvres du pays. La contagion s'opère par WhatsApp à travers des messages, parfois accompagnés de vidéos détournées qui alertent les gens sur l'arrivée de kidnappeurs venant d'autres régions. Les victimes sont alors des mendiants ou des travailleurs et même des touristes qui ont juste l'air différents de la population locale. Des sites spécialisés dans le fact-checking comme Boom Live lutte contre ces rumeurs meurtrières. Jensi Jacob est le rédacteur en chef de cette plateforme.
Definitely it is difficult to find who has originated this video or this image.
Il est très difficile de trouver qui est à l'origine de ces images ou vidéos, mais nous avons un numéro d'alerte sur WhatsApp par lequel les gens nous envoient des messages et nous interrogent sur leur véracité. Parfois, nous les transférons sur les comptes de la police et les encourageons à éduquer la population sur ces questions. Mais des policiers nous ont confié que s'attaquer à WhatsApp représente une énorme bataille, car ils ne peuvent pas faire partie des groupes WhatsApp ni comprendre comment ce réseau fonctionne. Donc ils essaient maintenant d'être plus actifs sur les réseaux sociaux.
Une difficulté supplémentaire pour la police est que cette messagerie est cryptée et qu'il est donc très difficile, si ce n'est impossible, de tracer son flux ou d'accéder à son contenu, à la différence de Facebook, dont chaque publication est facilement identifiable.
Lorsque Donald Trump dit que l'Union européenne a été créée pour profiter des États-Unis et s'en prendre à nos finances, ou que l'OTAN est mauvaise pour l'ALENA, ce n'est pas seulement factuellement totalement faux, cela veut dire pour moi qu'il est temps de partir. Ayant servi sous 6 présidents et 11 secrétaires d'État, je n'aurais jamais cru arriver à un tel point. Ces propos, révélés par la revue Foreign Policy, sont ceux de l'ambassadeur des États-Unis en Estonie qui a décidé d'accélérer son départ à la retraite.
Merci Nabila Hamel, la face cachée du Globe est à retrouver sur franceculture.fr. La météo de ce dimanche, il fait très chaud déjà et cela va continuer toute la journée. 30 degrés en moyenne dans tout le pays, jusqu'à 37 degrés dans l'est et le centre. Le département du Rhône est en alerte canicule jusqu'à 16 heures. Des fortes chaleurs qui annoncent des orages. 11 départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange.